DW. Économie et développement.
Suite de notre dossier consacré au coton. Nous avions évoqué dans notre dernier numéro la célébration d'un événement majeur pour le continent, la Journée mondiale du coton, organisée pour la première fois dans un pays producteur, loin des institutions internationales. Cette importante matière première, souvent appelée or blanc, joue un rôle crucial dans l'économie de nombreuses nations africaines. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir des experts du C4 pour discuter de l'état actuel de la production du coton en Afrique, des défis auxquels les producteurs font face et des opportunités à venir pour ce secteur clé. Nous reviendrons également sur les enjeux globaux autour du coton, notamment à travers le partenariat FIFA-OMC qui était au cœur des discussions de la Journée mondiale du coton qui vient de s'achever. Nous allons trouver un bout de temps dans la seconde partie de ce magazine pour parler de la République centrafricaine, un pays qui met en place des plans stratégiques pour relancer son développement économique. Économie et développement, c'est Rodrigue Guezodia au micro. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. DW. Ils étaient parmi les nombreux acteurs mondiaux du secteur du coton présents le 7 octobre à Cotonou lors de la Journée mondiale du coton. On parle de plus de 500 participants ayant pris part dans la capitale économique du Bénin à cet important rendez-vous consacré au développement de l'or blanc. Je veux parler de Haruna Niang, ancien ministre de l'Industrie et du Commerce du Mali. Bonjour.
Bonjour, un plaisir.
Dieudonné Manirakiza, un acteur clé de la filière coton au Burkina Faso. Il est également consultant agro-industriel et expert en coton. Bonjour.
Bonjour, ouais. Plaisir est pour moi.
Nous avons aussi Tardibay Moyalbay, Guillaume. Il est venu du Tchad et il est directeur d'exploitation d'une grande usine au Tchad, à N'Djamena.
Oui, merci, au plaisir d'être là.
Alors, pour démarrer, que retenir brièvement de ce qui s'est passé à Cotonou lors de cette journée mondiale du coton? Monsieur Haruna Niang.
Ouais. Je pense que l'Afrique, à travers les C4, vient de réussir son combat. Vraiment, c'est un grand espoir parce que l'événement a été suivi partout et particulièrement par les paysans. Parce que dans le processus de préparation des différents rapports qui ont été faits, il y a eu des phases de consultation nationale. Et durant ces phases, tous les acteurs ont été conviés et en particulier les paysans, les cotonculteurs. Donc tous ont participé et on leur a expliqué l'initiative OMC-FIFA et le volet transformation qui est souhaité comme objectif par tous les pays et soutenu par toutes ces institutions qui étaient là présentes. Alors donc ça suscité chez eux, je peux vous le dire, un grand espoir.
Grand espoir pour le Tchad aussi?
Oui, un grand espoir. Nous avions vu qu'il y a des investissements, il y a de l'espoir pour que le Tchad aussi puisse acquérir d'autres usines qui pourront aider vraiment la population à s'habiller aussi coton 100%.
Dieudonné Manirakiza, le Burkina a beaucoup contribué aux travaux.
Oui, le Burkina fait partie des pays fondateurs du C4 et joue un rôle important avec autour de 250 000 tonnes de coton fibre qui sont produits chaque année, soit environ 4 millions de la population qui vivent du coton. Alors cette journée qui s'est tenue à Cotonou a permis de faire un zoom sur cette filière qui fait nourrir pas mal de population et qui est une source d'espoir pour le pays tout entier.
Alors, le coton africain est prisé. Mais les quatre leaders de l'or blanc n'occupent que 8% des échanges mondiaux du coton. Pourquoi cette place marginale? On va commencer par vous.
Oui, ce n'est pas aussi marginal que ça, parce que les 8% dont on parle, c'est sur les échanges au niveau international. Mais quand nous regardons ce que nous produisons, ce que nous consommons localement, c'est plus que ça. Et maintenant, le plus important, c'est de regarder l'impact. Et quels sont ces pays qui sont devant nous? Ces pays qui sont devant nous, ce sont les États-Unis, c'est la Chine, c'est l'Inde en matière de production. Aujourd'hui, avec les 8%, si on pouvait les transformer localement, c'est encore un rebond en avant. Aujourd'hui, le challenge, ce n'est pas d'exporter. Nous souhaitons exporter 0% de coton et exporter 100% en produits finis. C'est le challenge.
Est-ce que vous êtes d'accord?
Absolument, absolument. Je voudrais revenir sur cette question de 8%.
Oui, oui.
Il faut voir plutôt le poids du coton dans nos économies à nous. Alors, au-delà de la part dans la production mondiale, parce que tout ce que nous produisons, les pays du C4, c'est environ 3% de la production mondiale. Au niveau des essences, c'est les 8%. Alors, mais ce qu'il faut voir, c'est quel est le poids de cette spéculation dans nos économies. Combien de bourses on nourrit, combien dans le pourcentage des exportations, combien ça nous rapporte au niveau du PIB. Voilà. Et c'est là où il y a une grande importance, au point que le coton est stratégique pour les pays du C4. Parce que ça permet d'employer beaucoup de gens, de nourrir beaucoup de gens et de contribuer à la croissance de nos pays.
À vous entendre, eh bien, il n'y a pas péril en la demeure.
Effectivement, les 8%, nous avions vu aussi des investisseurs qui sont là, oui, qui sont prêts à financer. Et chaque pays est aussi préparé à asseoir au moins des usines, que ce soit industrialisé, que ce soit du secteur aussi artisanal. Nous avons développé pour que l'artisanal soit aussi au centre de la vision de nos pays pour booster et consommer toutes les quantités de production qui seront encore encouragées dans le temps à venir.
Nous avons entendu tout à l'heure M. Manirakiza mettre l'accent sur la transformation. Qu'est-ce que vous en avez dit au cours des échanges à Cotonou?
C'est entré dans une discussion très profonde. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que nos usines tendent à perdre de la valeur. Et même les machines qui transformaient ce coton, ces matières primaires, tendent aussi à vieillir. Nous voulons renouveler les parcs industriels et mettre ces parcs-là ensemble et renforcer encore avec d'autres équipements modernes. Et nous allons aussi mettre en place aussi une politique de la nouvelle technologie pour encourager et aussi l'emploi des jeunes, surtout la main-d'œuvre et les femmes et les enfants. Ce sont des visions que nous avions mis en place et nous avions discuté dans différents panels pour pouvoir accélérer ce processus.
Oui. Ça veut dire que Cotonou va changer beaucoup de choses en ce qui concerne le coton du continent.
C'est l'espoir qui nous anime tous. Parce qu'à partir du moment où nous avons la matière première et que nous avons le marché, pas seulement le marché international, le marché sous-régional, nous avons au moins les 12 milliards qu'on peut créer, et en Afrique de l'Ouest, on peut consommer, avoir au moins 5 milliards de dollars qu'on peut capter sur le marché. Et que la technologie existe, même s'il faut payer cette technologie de l'extérieur, on peut la payer à partir du moment où il y a la volonté de le faire. Et nous avons une main d'œuvre qui est là. Et aujourd'hui, tout est réuni pour que nous puissions véritablement transformer nos matières premières et être fiers de nous habiller le coton que nous cultivons.
Voilà. À part le Bénin qui exporte du textile à partir de sa zone économique spéciale, GDIZ, les grands producteurs africains ne transforment pas 50% de leur coton. J'insiste là-dessus. Quels sont les défis à la création de plus-value pour la transformation massive du coton en Afrique?
Justement, l'initiative OMC FIFA, c'est là le côté intéressant. Il s'agit d'aider nos pays à augmenter la production pour qu'on ait un approvisionnement suffisant éventuellement pour les industries, qui soit stable, régulier, et deuxièmement, que nous puissions transformer. Et la transformation, c'est une obligation pour nous parce que sans transformation, c'est un gros manque à gagner en termes d'emploi. Et d'ailleurs, Madame Gozi de l'OMC a même dit que quand nous exportons notre coton, c'est comme si nous exportons les emplois avec. Donc on a besoin, avec le chômage qui est élevé dans tous nos pays, les jeunes diplômés qui sont sans emploi. Donc il est important que le secteur du coton joue un effet de levier pour le développement économique et social. que ça agit sur la croissance, ça crée des revenus pour les paysans, que donc ça permet même de faire une diversification dans d'autres secteurs. Donc, et c'est ça l'idée, et c'est ça l'importance de la rencontre.
Voilà. Je vais revenir à vous, Dieudonné Manira Kiza. Quelles sont les contributions potentielles des organisations internationales au développement du coton africain? Je vais parler de l'OMC, de l'ITC, de l'ONUDI, FAO et autres.
Je vais d'abord préciser que je ne suis pas trop fan de ces aides qui viennent de l'extérieur. Je pense que l'Afrique, les pays du C4, nous pouvons développer notre transformation de coton en utilisant les ressources endogènes. Mais c'est bon que ces structures existent parce que l'OMC est là pour réguler la concurrence déloyale. Elle joue sa partition. Et nous pouvons dire que ces derniers temps, avec l'avènement de Mme Ngozi, beaucoup de choses ont changé.
Elle milite beaucoup plus
Elle fait un grand travail pour ça. Quand nous regardons l'OIT, l'OIT est là pour nous dire, voilà, il ne faut pas qu'il y ait des enfants dans le secteur de coton. Il ne faut pas utiliser les enfants, il faut rémunérer les gens. Ça aussi, c'est important qu'il y ait un zoom et qu'on puisse communiquer. L'ONUDI est là pour se rassurer qu'il y a un transfert de technologie adéquat. Voilà. Mais le challenge reste toujours et restera toujours les pays africains. Nous devons prendre en main notre avenir.
Les petits exploitants sont souvent les oubliés des politiques visant de haute performance. Comment les intégrer dans les chaînes de valeur et conforter leurs revenus face aux défis de compétitivité?
Très bonne question. Mais vous savez, en Afrique, les petits exploitants, il y en a qui ont 1 hectare, qui ont 2 hectares. Il va être très difficile de moderniser la productivité sur une petite superficie.
Mais ils ont leur place quand même.
Ils ont leur place et c'est important de tenir compte d'eux. Mais comment faire? Si nous continuons à exporter la matière première non transformée, on ne crée pas de valeur ajoutée. Et je donne un exemple. Si vous exportez 1 kg de coton fibre, vous l'exportez à 2,4 $. Mais si vous valorisez et que vous allez jusqu'à un vêtement produit fini, vous êtes autour de 26 $. C'est-à-dire vous l'avez multiplié environ 10 fois. Et si nous décidons de transformer nos matières premières locales en créant cette valeur ajoutée, nous allons avoir de la marge, de quoi rémunérer le paysan, le producteur, à sa juste valeur.
La valorisation des petits producteurs au Tchad, est-ce que c'est une préoccupation?
Oui, c'est une préoccupation majeure parce que là, même l'État, le gouvernement s'est impliqué pour subventionner d'abord les intrants aux producteurs. Et il y a d'autres efforts qui sont faits, surtout sur la sensibilisation. Et aussi, ce qu'on a vu beaucoup plus, c'est la réduction surtout des conflits agriculteurs et éleveurs qui se vit aussi dans nos pays, qui dérange énormément les champs de coton.
Regardons ce qui nous unit et avançons. C'est cette phrase d'ailleurs que je vous remercie. Haruna Niang, vous êtes un ancien ministre de l'Industrie et du Commerce du Mali. Merci d'être venu.
Merci.
Dieudonné Manira Kiza, vous êtes du Burkina Faso, consultant agro-industriel et expert en coton.
C'est moi qui vous remercie.
Et nous avons donc Tardubaï Moyalbaï Guillaume, qui représente le Tchad donc, dans cette émission. Merci.
Merci beaucoup.
DW.
Économie et développement, seconde partie, direction la République centrafricaine, ce pays qui se stabilise peu à peu après la crise sécuritaire qu'elle a traversée. Si les efforts sont encourageants au point que les organisations humanitaires se retirent progressivement pour laisser place aux actions de développement, le gouvernement n'a cependant pas tous les moyens de sa politique économique. Il s'emploie en revanche à promouvoir le secteur privé et à investir dans les secteurs porteurs de croissance. Un plan quinquennal de 7 000 milliards de francs CFA est à mobiliser pour lancer la machine du développement du pays. On en parle avec Jean-Fernand Quenant, notre correspondant à Bangui.
Le désert de l'indigence nous obligeant à vivre essentiellement aux dépens de l'extérieur.
Le créer les conditions d'investissement d'accès aux services sociaux de base et relancer la croissance, tels sont les objectifs que s'est fixé le gouvernement. Pour inciter au développement, les compétences centrafricaines de l'extérieur sont appelées à venir investir au pays. Docteur Aimé Service est pharmacien évoluant aux États-Unis. Il est heureux de faire son retour et plaide pour plus d'engagement de ses pairs.
C'est un grand plaisir pour moi. Donc je vais rentrer, je vais essayer de prendre contact avec mes collègues là-bas pour voir s'il y a des possibilités de se joindre à nous.
Outre la santé, le secteur agricole pourrait profiter du rebond et de l'environnement favorable des affaires. Les caféiculteurs, longtemps laissés pour compte et privés du marché soudanais, reprennent espoir grâce à la sécurité retrouvée. Angéline relance sa production après des années d'inaction.
Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas produit parce que le marché n'était pas favorable. Maintenant, les signaux sont bons et nous pensons que le gouvernement va nous aider à faire du café le fleuron de notre économie, comme par le passé.
Le plan du gouvernement se veut une réponse assez large dans un contexte de ralentissement de la croissance. Le secteur minier, par exemple, qui semble retrouver son élan, est privé des entrepreneurs nationaux. Richard Filakota, ministre du Plan et de l'Économie, pense que le plan national de développement pourrait régler ce problème.
Nous avons maintenant un nouvel outil de développement qui doit permettre à ce que les opérateurs économiques centrafricains puissent se saisir de cet instrument de travail pour faire valoir leur capacité à explorer et à exploiter le gisement minier de la République centrafricaine.
Mais pour y parvenir, un budget de pas moins de 7 000 milliards de francs CFA est indispensable d'ici à 2028. Occasion pour le président Touadéra d'appeler à la tribune des Nations Unies, la communauté internationale, à financer ce plan.
En ce qui concerne la République centrafricaine, l'ambitieux plan national de développement pour la période 2024-2028 établit un meilleur équilibre entre les besoins et intérêts des générations présentes et futures en retenant comme l'un de ses axes stratégiques le développement du capital humain.
Aussi, une table ronde est-elle attendue pour convaincre les bailleurs à financer le développement? D'ores et déjà, le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, s'est engagé selon Mohamed Agayoya, coordonnateur des actions humanitaires en Centrafrique.
Il y aura un appel assez pressant vis-à-vis des acteurs du développement pour leur présence.
L'expérience du plan de consolidation de la paix financé par l'Union européenne arrive à terme en 2023, est un indicateur pour les bailleurs, mais aussi une leçon pour y jeter les bases d'une économie trop dépendante de l'aide extérieure. Jean-Fernand Quenant, Abangui pour la Deutsche Welle.
C'est avec ce reportage de Jean-Fernand Quenant que se termine ce numéro d'Économie et Développement. Je vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez d'ailleurs le réécouter ou le télécharger sur notre site www.dw.com/français. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.